Grand 1 définition, on appelle courant littéraire l'ensemble des ressemblances, des convergences volontaires ou fortuites chez les écrivains d'une génération donnée quant à leur vision du monde, leur manière de rendre le réel dans leurs œuvres. À travers ces tendances, on note les différentes perceptions de l'art selon l'époque, les auteurs, etc. Même s'il n'est pas prudent de fixer une date pour l'origine des courants littéraires, on peut retenir que la mode ne s'installe véritablement qu'au 19e siècle. Toutefois, on peut remonter jusqu'au 10e siècle avec l'humanisme, si l'on considère le courant littéraire comme étant à la fois un ensemble idéologique et artistique. Ainsi, au 10e siècle, nous avons l'humanisme. Au XVIIe siècle, le classicisme. Au XVIIIe siècle, le rationalisme et le préromantisme. Au Xe siècle, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le Parnasse, le symbolisme et au XXe siècle, le surréalisme. Grand 2, les différents courants littéraires à l'humanisme. XVIe siècle, il correspond au VIe siècle et recommande que l'on s'inspire des textes anciens de la tradition grecque et latine. Le mot « humanitas », désignant en latin la culture, les écrivains de cette époque appellent leur enseignement « l'être d'humanité » et on les nommera eux-mêmes « humanistes ». Ce mouvement coïncide avec le besoin de renaissance senti par la France. Elle consiste à une rénovation littéraire, artistique et scientifique sous l'impulsion de la culture antique remise à l'honneur. Les écrivains vont retourner aux sources anciennes et aux textes religieux pour sortir la civilisation française de sa torpeur. Les hommes de cette époque ont la conviction de vivre un nouvel âge d'or, une renaissance. Cette renaissance a pour origine les voyages, découverte de nouveaux horizons et de l'apparition du livre, l'imprimerie, la gravure. En outre, le contact avec l'Italie permit à la France de découvrir une société élégante, une vie luxueuse et raffinée. L'humanisme désigne par ailleurs une élégance morale, la courtoisie, la politesse, en quelques mots, toutes les qualités inséparables de la culture. Ainsi, le mouvement humaniste en viendra à désigner un idéal de la sagesse, en plus de la formation à l'école de la pensée gréco-latine. Les humanistes proposent un idéal de fer et de sagesse humaine. Ils prônent, selon la belle formule de Michel de Montaigne, 1533-1592, de faire bien l'homme. Les humanistes rejettent le Moyen Âge et se tournent vers la culture antique. Les conséquences de l'humanisme seront beaucoup plus visibles sur le plan religieux avec Érasme, 1439-1536, et Calvin. Ce mouvement appelé la Réforme aboutit au protestantisme, refus des cultes des saints, rejet de l'autorité du pape, entraînant ainsi une rupture avec la tradition biblique. Malgré les efforts de François Prunaire pour encourager et contribuer à la naissance d'aspirations nouvelles, au niveau religieux, les contestations vont crescendo. L'affaire des placards, contestation de la messe papale en 1534, active les événements. Le roi prit des mesures de répression. L'esprit de libre examen et une lecture authentique de la Bible n'arrangent pas les choses. Entre 1562 et 1598, 8 guerres séparées de trêves fragiles ensanglantent la France, dont on peut retenir le massacre de protestants à Oissy en 1562 et la sévère répression du parti protestant à la Saint-Barthélemy à Paris dans la nuit 24 août 1572. L'arrivée d'Henri IV avec la promulgation de l'Édit de Nantes, 1598, qui donne un statut légal à l'Église réformée, apaise les tensions. Ces guerres marquent profondément la vie littéraire. Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques Puissances, et Ronsard, Discours des misères de ce temps, 1532, se positionnent fortement dans leurs œuvres. La littérature s'engage et devient une arme de propagande. Dans ses essais, Montaigne affiche un scepticisme tolérant. Il refuse la confrontation et adopte une sagesse à la taille de l'homme. Ce militantisme apparaît comme une première manifestation de la littérature engagée. La poésie rencontre des conflits et adopte un ton plus polémique. Dans leur programme d'éducation, ils ne se limitent pas au goût de l'éthique. François Rabelais, 1494-1553 montre que l'effort intellectuel doit être complété par un entraînement physique intense et varié. La Pléiade, 1556, elle tire son nom de la mythologie grecque et désigne une constellation de 7 étoiles. Le mot réapparaît au 16e siècle pour désigner un groupe de poètes rassemblés autour de François Ronsard, 1524-1585, le « prince des poètes ». Leur mérite a surtout été de rivaliser avec les poètes grecs et latins, en montrant que la langue française pourrait signifier autant que les langues anciennes. Il publie sous la direction de Joachim du Bellay, Défense et illustration de la langue française, qui en fait est le manifeste du groupe, et se donne comme objectif d'enrichir le français en retrouvant des mots anciens, de défendre la langue française du grec et du latin. La Pléiade rassemble en 1556 de jeunes poètes comme Baïf, Bellot, Jodel, Pelletier-Dumont, Pontus de Thiardes, du Bellay et Ronsard. Belle époque classique. Le XVIIe siècle, le XVIIe siècle, apparaît sans conteste comme le siècle du théâtre. Cependant, il est traversé par plusieurs courants littéraires. Un, le baroque, défini négativement comme l'envers du classicisme, le baroque est marqué par l'excès, la démesure, tout ce qui est exagéré. Il manifeste un goût excessif pour le mélange des genres. Ce refus de saisir la réalité cumule les formes. L'esprit baroque est présent chez Corneille, la tragicomédie, Agrippa d'Aubigné, etc. En poésie, on note l'usage d'images fortes et d'antithèses. De la préciosité à l'origine, on appelle « précieuses » les dames du grand monde qui, selon le mot de Abbe de Pure, se tirent du prix commun des autres, c'est-à-dire s'élèvent au-dessus du vulgaire par la dignité des mœurs, l'élégance de la tenue, la pureté du langage. Cette attitude se caractérise autour des années 1630, dans les salons aristocratiques. L'esprit précieux se manifeste dans les manières, les sentiments, le goût. Dans le langage, ce sont des exagérations, des périphrases, la pointe. Molière et Malherbe s'élèvent contre la préciosité. Le premier en donne une caricature justifiée par le refus du naturel et la recherche de l'artifice dans les précieuses ridicules. Le second épure la langue et fonde le français classique. Il annonce le classicisme 3, le classicisme, 1660-1685. Il correspond à l'avènement de Louis Tacosides avec la monarchie absolue de 1660. C'est un courant qui cherche l'idéal esthétique, la précision et la nuance. Il a été inspiré par le désir d'ordonner, de réglementer la production littéraire disparate du 16e siècle. Il se caractérise par un idéal esthétique, un idéal humain et l'art de plaire. L'idéal esthétique, les références de l'Antiquité abondent dans l'art classique, la connaissance de la mythologie, la littérature grecque et latine. Cette imitation est au contraire pour eux une garantie de perfection. Car l'Antiquité est un modèle. Les anciens ont laissé des œuvres qui ont franchi les siècles. Cette capacité à durer est aux yeux des classiques la marque de l'excellence. Il faut donc suivre les anciens pour construire des œuvres qui puissent s'imposer à leur tour. C'est ce qui explique l'existence dans leurs œuvres d'un souci de l'universel, d'une autorité de la raison, d'une bienséance et d'une vraisemblance, mais surtout d'une volonté de réglementation de la littérature. Le souci de l'universel. La société du XVIIe siècle repose sur la tradition. L'homme, pense-t-on, est immuable. Les œuvres classiques expriment cette conception même lorsqu'elles parlent du présent. Elles dépassent le cadre historique pour peindre l'homme de 1660, l'homme éternel. Plus que l'individu, c'est la nature humaine qui intéresse les classiques. L'autorité de la raison. Les classiques entendent par le mot « raison » le bon sens, partagé par le plus grand nombre. Le bon sens impose que l'on ne s'écarte pas de ce qui peut être normalement accepté par l'esprit. La raison impose aussi que l'on suive des principes qui ont déjà fait leurs preuves. Les règles sont la forme strictement codifiée de ces principes. Elles s'imposent avec rigueur dans le théâtre et représentent des contraintes. La bienséance et la vraisemblance, les conventions sociales. Le théâtre est un mode d'expression concret. C'est également un art social. Il y est difficile d'aller à l'encontre des conventions sociales. Il convient de ne pas représenter des faits qui pourraient paraître invraisemblables, les scènes de torture, les propos indécents. On ne meurt pas sur scène, on n'y mange pas, on ne s'y bat pas. Nous avons au XVIIe siècle un théâtre de la mesure et de la concentration. Au XVIIe siècle, la doctrine classique apparaît plus comme une série de rejets qu'un ensemble de normes. Le seul but est de plaire.